voix nue. Cette semaine, Serge Toubiana rencontre Margaret Mengoz. Ce soir, d'autres aventures avec les films du Losange.
Bonsoir Margaret Mengoz.
Bonsoir Serge.
En 1985, 10 ans après votre arrivée au film du Losange, vous développez une nouvelle activité de distribution et de vente internationale. L'objectif, j'imagine, consistait à renforcer l'indépendance des films du Losange. Pouvez-vous nous justifier ce choix ?
Eh bien, on a d'abord commencé par la distribution, parce qu'avant, nos films étaient distribués soit par Gaumont, soit par 3A, qui a disparu, Gérard Le Bovici. Cette société a disparu depuis. Et le moteur était, il y avait des jours où j'allais 2 fois à Neuilly, chez Gaumont. J'ai tombé sur des gens qui sortaient un film le même mercredi que nous, 2 autres le mercredi d'après, et j'étais en sandwich entre tous ces films que je connaissais pas. Quand vous avez passé un an ou 1 an et demi de votre vie à fabriquer un film, c'est insupportable. Vous êtes un numéro parmi d'autres films, ils proposent des affiches qui vont pas, ils proposent un choix de photo qui va pas, enfin, bon, tout ça. Donc j'ai dit, on va essayer. Et puis, il y avait un homme qui programmait les salles, Gaumont. Je lui en ai parlé parce qu'il fallait que je trouve quelqu'un. Et parce que c'est très difficile de produire et de distribuer. Parce que, par exemple, moi, quand on programme un film dans les salles, quand un exploitant me dit « Ouais, c'est pas mal », mais quand il dit « Mais », j'ai envie de l'étrangler. Parce que c'est insupportable quand vous avez fabriqué un film. Et Régine reste avec lui une demi-heure au téléphone et à la fin, il a oublié tous les mets.
Qui est Régine alors ?
Régine Vial, donc c'est la personne que Denis Chateau m'a recommandée. Il m'a dit, pour faire la distribution, il faut connaître la géographie par cœur de la France. Parce qu'à l'époque, on avait des copies 35 qui... Il y avait un suivi d'une copie, elle est dans une salle, puis dans une plus petite ville, dans une autre salle. Donc il fallait pas programmer Dunkerque après Marseille. Il fallait essayer que ces transports soient le moins longs possible. Et deuxième qualité nécessaire absolument, quelqu'un qui connaisse tous les exploitants. Parce que la distribution, ça s'est fait au téléphone tous les lundis matins. Toutes les salles changent de programme et il faut donc se battre avec les exploitants pour rester.
Pour qu'ils gardent votre film.
C'est ça, exactement. Le plus longtemps possible.
Et Régine Vial est toujours...
Toujours
donc,
là.
Donc là aussi, fidélité.
Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de turnover au Losange.
À Losange, les gens restent.
Oui.
Je connais beaucoup de gens qui ont été formés chez vous.
Oui.
Alors j'aimerais qu'on parle de 3 cinéastes qui ont marqué leur passage au film du Losange.
Oui.
Jean-Claude Brissot, d'abord.
Ah oui.
Comment s'est fait le contact ? J'imagine que c'est par Éric Rohmer.
Oui. Ben, à l'époque, il y avait une salle de cinéma qui s'appelait L'Entrepôt, gérée par Frédéric Mitterrand et Jean...
Hernandez
et Honeschberg. Ils étaient tous les 3. Et ils avaient beaucoup de mal à payer la part qui revenait de la salle au distributeur. Et j'avais une espèce d'affection pour eux, parce qu'on voyait des films là qu'on voyait nulle part ailleurs. Donc, je leur donnais des copies de nos films, bien que ça circulait dans la profession, plus une seule copie à l'entrepôt, ils payent pas les distributeurs et tout ça. Et Romer fréquentait beaucoup l'entrepôt. Et puis, comme il était très distrait, un jour, il va et se trompe de salle. Et il tombe sur un moyen métrage, disons, de Brissot, qu'il a tourné tout seul chez lui. Et puis, il revient, agacé, parce qu'il n'a pas vu le film qu'il voulait voir. Il a vu cet autre film. Et il revient, il me dit, j'ai vu un film, je ne me rappelle pas le nom de l'auteur, mais ça m'a l'air intéressant. Et évidemment, la caissière de l'entrepôt a dit à Jean-Claude, qui beaucoup d'auteurs débutants, ils sont à côté de la caisse pour voir la tête des gens qui achètent un ticket pour leur film. Elle a dit, Romer est venu. Donc, il a appelé Romer. Et Romer vient me voir en disant, vous devriez le voir, lui. Donc, on a fait un rendez-vous. Et on a essayé de l'aider pour son premier film. Ça s'appelait La vie comme ça. C'était un film, à l'époque, Lina faisait un pré-pellicule et laboratoire. Et pour le reste, on devait se débrouiller. Ils achetaient la pellicule, le 35 ou le 16, et ils payaient les laboratoires pour le développement et le tirage. Et les techniciens et le montage, enfin tout ça, il fallait qu'on se débrouille. Donc on a trouvé des techniciens et on a fait ça avec Jean-Claude. Et encore aujourd'hui, les contrats étaient ce qu'ils étaient à l'époque avec Lina. Le film appartient à Lina. Ouais. Et donc on a commencé à parler. Effectivement, on a trouvé qu'il était vraiment très très intéressant. C'était un ovni pour nous.
Oui. C'est un. C'était quoi, professeur en banlieue
ou instituteur, je pense.
Instituteur, oui. Passionné de cinéma, cinéphile.
Complètement voilà. Passionné de cinéma, complètement cinéphile, admirant beaucoup Bertrand Tavernier, ouais. Qu'il avait lui aussi pris un peu sous son aile. Mais il voulait raconter des histoires, jamais j'avais pensé à des choses comme ça. C'est-à-dire, il y avait un jeu brutal,
le premier
qui
film.
Racontait les tournantes dans les caves des banlieues, une vie réelle dans les banlieues, dont des gens comme moi, on ignorait absolument tout. Et après, un jeu brutal. Il a fait des brouilles et des fureurs, un film avec une partie fantastique, et ça a très bien marché. Les programmateurs de Gaumont, quand j'allais les voir, ils me disaient, bon, on mettra ça en soirée sur les Schtroumpfs, parce qu'il n'y avait aucun spectateur à 10h du soir et à 8h du soir. C'était au départ des films pour enfants, quoi, pour des jeunes publics en famille ou pas, et tout ça. Et ça a très bien fonctionné, donc on a continué, et la suite était Noce Blanche.
Noce Blanche, oui.
C'était notre premier très grand succès, c'est un film qui a fait 2 millions d'entrées en France, c'était complètement inattendu, et il voulait le faire avec une actrice qui s'appelle Charlotte Valandré.
Oui.
Et le même Denis Chateau qui m'aidait chez Gaumont et tout ça, il m'avait dit... Écoutez, il y a une fille extraordinaire, elle chante, s'appelle Vanessa Paradis. Elle avait un grand succès avec une chanson qui s'appelait Joe le Taxi.
Joe le Taxi.
Et moi, la variété, c'est quelque chose, moi c'est plutôt l'opéra et les concerts classiques que la variété. Donc j'ai forcé un peu Jean-Claude d'aller la voir, il voulait pas la voir, il avait choisi l'autre actrice, ça devait être elle. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous risquez? Vous allez la voir, si ça va pas, vous revenez et on engage Charlotte Valandré. Il est revenu très perturbé et il m'a dit, elle est le personnage. Donc on s'est séparés.
Charlotte Valandré.
Oui, et puis on l'a engagé pour le film. On a tourné à Saint-Étienne. C'était un tout petit peu nouveau pour moi. Je sortais des romères qui savaient qu'est-ce qu'il allait faire, comment on allait le faire, quand on fallait le faire, combien de temps il faudrait pour le faire, enfin tout ça. J'ai essayé de l'attraper tous les soirs après le tournage. On savait ce qu'on allait tourner le lendemain, mais par quel plan on commence pour préparer le tournage. On n'éclaire pas un plan général alors qu'on commence par un groupe, enfin bon... Et Jean-Claude, il en avait marre. Il me dit, écoutez, je sais pas très bien comment on va faire ça. On va aller à la maison et on va regarder. C'était les VHS existaient déjà. Et il avait une importante collection de VHS. Et il m'a montré un film de Hitchcock qu'il avait tourné en Australie.
Oui.
Je sais plus comment il s'appelait ce film. Et puis, il y a un plan où la caméra... passe d'une chambre à l'autre, à vers les portes. Il me dit, voilà, c'est ce qu'on va faire.
C'est le film avec Ingrid Bergman. Et...
C'est ça. C'est le premier plan de demain. Mais c'est ce qu'on a fait.
Donc la cinéphilie, il se servait de ses références, de sa culture,
sa connaissance,
plan par plan.
Parce qu'il a appris le cinéma en voyant les films. Comme toute la nouvelle vague, ils ont appris leur métier sur les bancs de la cinémathèque au Palais de Chaillot. Il n'y avait pas la FEMIS, il n'y avait pas d'école, il y avait l'IDEC. mais qui apprenait plutôt la technique.
Très, de façon très classique, quoi.
Très classique. Costa a fait ses années d'apprentissage à l'IDEC. Mon mari avait fait l'IDEC, mais, enfin bref. Jean-Claude, grand succès. Quand on a exploité le film, c'était en même temps qu'un film de Luc Besson, je sais plus lequel, et il voyageait souvent en même temps dans le monde pour les festivals, pour promouvoir leurs films. Et, comment dire, Luc était marié avec Omon, et il avait tout un staff, secrétaire, je sais pas quoi, directeur de la post-production, enfin, 3-4 personnes autour de lui, et Jean-Claude était tout seul.
Oui.
Et ça conduisait à des scènes d'un comique incroyable. Il nous appelle du Japon pour dire qu'il a oublié les chaussettes.
Ouais.
J'ai dit, mais il faut aller acheter des chaussettes.
Le coût de l'appel téléphonique.
Oui, c'était, était 12 paires de chaussettes à l'époque. Et puis, il me rappelle pour dire, non, ils n'ont pas des vraies chaussettes parce qu'ils avaient des chaussettes où le pouce du doigt de pied est isolé pour pouvoir rentrer dans les tongs, voilà. Enfin après il a survécu,
ouais,
avec les chaussettes japonaises. C'est juste un petit détail, mais il avait quand même envie de passer à un statut Luc Besson. Mm-hmm. Donc il est allé chez Gaumont, on s'est séparés, il est allé chez Gaumont. Et puis, il a continué à travailler avec Gaumont et avec d'autres. Donc, nous, on s'est arrêtés.
Voilà.
Et à l'époque, un des plus célèbres agents de la place de Paris, c'était Gérard Lebovici. Il m'avait dit, écoutez, c'est pas grave. On peut se séparer d'un acteur en phase de succès. Tout le monde est content. On se sépare. Tout va bien. Mais dites-vous une chose, ne vous séparez jamais d'un auteur en phase d'échec,
oui,
parce que vous retrouverez jamais l'argent que vous avez perdu.
Oui.
Si vous vous séparez.
Très bonne
lui.
Leçon.
Oui.
Bon, après, Jean-Claude Brissot a fait d'autres films, donc oui. Céline, L'Ange Noir, Les Savates du Bon Dieu, puis il est mort il y a quelques mois.
Oui.
Vous n'avez pas de regrets, vous? Vous avez le sentiment d'avoir fait avec lui?
Non, parce que il faut être d'accord tous les deux, profondément, le metteur en scène et le producteur, pour travailler ensemble. Quand il y en a un qui louche sur un autre métier, c'est pas bon de travailler comme ça. Parce qu'on peut pas faire du bon travail. C'est basé sur la confiance réciproque. La confiance, c'est pas donné une fois pour toutes. Ça doit se gagner tous les jours, réciproquement. Et quand il y a pas de confiance, on peut pas travailler.
Parlez-moi de Roger Planchon. Qu'est-ce qui fait que, bon, c'est un homme de théâtre très connu, mondialement connu. Théâtre national populaire et vraiment un homme de théâtre accompli. Il veut faire du cinéma et il vient vous voir.
Alors, pas
pour faire Dandin.
Oui, mais pas directement.
Pas directement.
Il avait envie de faire du cinéma et puis les métiers, enfin le milieu des producteurs était assez méfiant. Donc il demandait des aides parce qu'il était au ministère de la Culture, au CNC pour développer. Il développait et puis ça donnait jamais rien. Donc il a fini par arriver au Los Angeles et moi ça m'a sa façon de voir le cinéma, il en avait jamais fait,
oui,
mais ça m'intéressait beaucoup. Enfin sa mise en scène au théâtre de Dandin était passionnante parce que c'était une façon sociale de regarder l'histoire de Dandin.
Mmh.
Et donc on a dit on essaye, on a fait un accord avec 3A, j'ai pu le financer et on a tourné le film et je me suis aperçue que il y avait des habitudes de décor au théâtre qui s'est télescopées avec ce qui existe en réalité ou la façon dont il faut filmer, par exemple un paysage. Au théâtre, on fait un paysage. Mmh. On met un horizon, une toile peinte, un arbre ou des choses comme ça. Tandis que au cinéma, le paysage, il est le paysage. Il est infini. Au théâtre, on peut mettre les personnages aussi loin que la taille de la scène le permet. Au cinéma, vous pouvez pas mettre les personnages à l'horizon. Parce qu'on les voit plus, c'est des puces.
Ouais.
Donc c'était un tout petit peu difficile, mais en travaillant, je me suis aperçue que il intégrait toutes ces données des différences entre théâtre et cinéma très très vite, le chant contre chant entre les acteurs, les mouvements des acteurs dans un plan repris dans l'autre plan, enfin donc on a continué après jusqu'à arriver. Alors il avait un grand projet de faire Molière. C'était difficile à financer et entre-temps Ariane Mouchkine
a fait son
Molière. Donc il a voulu faire une espèce de film de 4 pièces de Molière qui étaient mélangées. Donc ça c'était très très difficile. Il était un grand amoureux du XVIIe siècle. Et donc on a décidé, il était très attaché à l'enfance de Louis XIV, parce que pour lui c'était l'enfance d'un chef.
Oui.
Comme on apprend le métier de diriger un pays comme la France, il y avait la Fronde, enfin il était orphelin de père, il y avait un cardinal près de sa mère, Mazarin, qui dirigeait à sa place. Et donc ça c'était vraiment passionnant à faire. C'était extraordinaire. Sauf qu'on est arrivé à un film de 2h40,
oui.
Et qui est très difficile à exploiter, parce qu'on a moins de séances par jour dans les salles de cinéma que pour un film d'une durée normale, donc moins de spectateurs, donc moins de recettes. Et donc, il a accepté de faire une version plus courte. On a sorti la version longue. Et puis, quand on avait fini le montage de la version courte de 2 heures, il me dit, oh, vous pouvez la mettre en salle, c'est pas mal. 40 minutes plus court. Enfin, le jeu était fait à cette époque-là. Et après Louis Enfant-Roi, on a fait Lautrec.
Lautrec, oui.
C'était une proposition d'un producteur allemand fou, amoureux de Lautrec. Roger Planchon a accepté parce que le personnage l'a intrigué, lui plaisait beaucoup. Et l'adaptation de Roger, le producteur allemand, l'a refusé. Donc on l'a fait tout seul. Voilà les 3 films avec Roger Planchon.
C'est lui qui a créé Rhône-Alpes Cinéma.
Oui.
Vous avez suivi aussi cette aventure.
Ah oui, oui, oui. J'ai beaucoup, beaucoup insisté parce que il fallait, si vous voulez, on trouvait ce qui était introuvable à l'époque pour financer le film. C'était un partenaire français qui vous aide en production. Toutes les autres régions, c'était des subventions plus ou moins remboursables, enfin comme une avance sur recette. Et donc, j'ai voulu que ce soit sous forme de coproduction. Et Rhône-Alpes Cinéma a été construit. Donc, on a fait Louis Enfant-Roi en Rhône-Alpes avec Roger Planchon.
Et ça existe toujours, lui,
Rhône-Alpes. Ah oui, cinéma. Ça fonctionne toujours.
Donc,
voilà, très
c'est
bien.
C'est une implication de la région dans la production.
Ça, sous forme de coproducteur.
Bon, je voudrais qu'on en vienne à Michael Haneke, parce que ça, c'est aussi une rencontre importante pour vous. Le Temps du Loup, 2003. Ces films précédents étaient coproduits par Marine Karmitz, MK2, c'est ça?
Alors, j'ai rencontré Michael, il était au mixage de La Pianiste.
La Pianiste.
Il ne s'entendait pas du tout avec son producteur et son agent lui a fait faire un casting de producteur. Donc il m'a appelé, moi je connaissais ses films.
Ses films autrichiens.
Autrichiens. J'ai pas pu regarder Funny Games jusqu'au bout parce que c'était vraiment terriblement cruel, enfin terriblement pervers et cruel. Et donc, j'étais un peu inquiète de le rencontrer, mais je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, à la fin on a dîné ensemble, j'avais amené Daniela Elsner, qui travaillait chez moi, qui est allemande aussi, au dîner, parce que je me sentais pas d'être seule en tête à tête avec quelqu'un capable d'accoucher des films comme Funny Games. C'est vraiment insupportable pour moi. Donc, on s'assoit, on parle. Comment on travaille, enfin, c'est tout naturellement, on a attaqué on souhaite travailler, comment on travaille, qu'est-ce qu'on peut améliorer réciproquement. Et à la fin du repas, il me dit, ah, peut-être nous pourrons travailler ensemble à l'avenir. Et moi, j'ai eu peur.
C'est lui qui vous a choisi, alors. Plus que vous.
Il m'a casté, oui, disons. Et moi, j'ai eu très, très peur. J'ai dit, écoutez, je sais pas si je peux passer un an ou deux de ma vie dans la perversion, dans l'horreur, dans la torture et tout ça. Je crois pas. Alors, il a éclaté de rire. J'ai peut-être dans l'avenir des projets plus ouverts, me dit-il. Et donc, il est revenu après la pianiste qui sortit, était à Cannes, avait gagné les trois prix, les deux prix d'interprétation, plus la mise en scène pour lui, ou l'auteur, je ne me rappelle plus, mise en scène ou auteur. Et il m'a envoyé, il m'a parlé, commencé à me parler de Caché.
Caché.
Le deuxième film que nous avons fait. Et puis, il est arrivé le 11 septembre. Aux États-Unis, l'attaque du World Trade Center, il m'appelle en disant, écoutez, je suis en train d'écrire une histoire nombrilique française, là, le monde va changer, nous avons vécu un monde, il y a un autre monde qui commence, j'ai un scénario que j'ai jamais pu tourner, qui parle de ça, Le Temps du Loup. Il m'envoie Le Temps du Loup. Et je m'aperçois que je l'avais déjà reçu quelques années avant par un avocat qui essayait de monter le film en Autriche et en Allemagne. J'avais lu, c'était très très long, et puis j'avais pas la tête à ça, j'avais à m'occuper de Romère qui prenait tout mon temps. Donc je relis, et je vois que ça va pas parce que ça durait à peu près 3 heures, le scénario. Donc je lui dis, il faut raccourcir, parce que je ne veux pas faire des films qui ne peuvent pas être exploités normalement. Il faut que, si on veut faire un deuxième film, il faut que le premier ait rapporté de l'argent. C'est qu'au bout de quelques années qu'on peut se permettre un vrai échec, oui, tout en ayant le moyen de commencer un nouveau film en préparation. Donc, il a coupé 3 quarts d'heure, qui était tout le début du scénario, où il y avait cette ville étrange, où on avait des petits brûleurs de gaz pour faire à manger, on avait des éclairés aux bougies, etc. Et une famille qui mettait tout ce qu'elle avait dans le coffre d'une voiture pour partir de la maison de campagne avec des provisions et des vêtements. Et sur le trajet, on voyait tous les contrôles, toutes les routes barrées. Ils arrivaient dans la maison à la campagne. Il voyait qu'elle était occupée et l'homme, ceux qui se cachaient dans leur maison, tue le père. Donc reste la mère avec les deux enfants qu'ils mettent à la porte. Ils leur permettent de prendre 2 vélos et ils les fichent dehors. Donc c'était une durée à peu près normale et je pensais qu'il est vraiment très intéressant en équipe et je vais pas faire la poule qui picore les bons grains et qui laisse les autres graines. S'il veut faire ça, ben on va faire ça.
Bien sûr, faut tout prendre.
Voilà, tout prendre. Et donc on a fait Le Temps du Loup, qui s'est entièrement tourné en Autriche avec Isabelle Huppert, que je connaissais d'avant, de La Dame aux Camélias.
Bien sûr.
Et des films de Claude Goretta, La Dentellière. Et je peux pas dire que c'était un succès.
Non.
Ça n'a pas très bien fonctionné, parce que il y avait Patrice Chéreau qui l'avait engagé, et Patrice, donc ça racontait un groupe de gens, c'était après une apocalypse quelconque, on ne savait pas exactement, avec des masses de vaches et de bœufs qui brûlaient, il n'y avait plus rien à manger, tout était plein de poison, tout ça. Et il y avait un groupe de gens réfugiés dans une gare dans l'espoir qu'un train passe. Et Patrice était dans ce groupe-là. Donc la femme est arrivée, avec Isabelle Huppert arrive avec ses 2 enfants et il reste dans ce groupe-là. Et Patrice me dit, t'es pas très contente de la mise en scène et tout ça. Il me dit, j'ai fait le film pour une réplique. Parce qu'ils se disputent, évidemment, enfermés dans leur gare. Et quelqu'un dit à Patrice, vous devriez avoir honte. Et Patrice dit, oui, ayons honte. Appliquons-nous, ayons honte. Et ça, c'est une réplique qui l'a séduit. Il a fait le film
pour ça, pour cette réplique.
Enfin, on a fini le film. Et puis, l'année où il était prêt, il est passé en compétition à Cannes. Mais Patrice était président du jury. Donc, c'était hors compétition. C'était sélectionné à Cannes, mais hors compétition. Voilà, et puis, on avait envie de continuer.
Vous avez fait cacher.
Cacher, après, c'était le scénario qu'on devait faire avant. Ça, on a moitié tourné en France et le studio en Autriche. Ça aide beaucoup les coproductions internationales en Europe. Parce que les financements est allégé d'autant. Et qu'en fait, on perd pas de droit. Parce que pour vendre un film en Autriche, c'est un petit pays avec une petite exploitation, ça rapporte pas grand-chose. Par contre, ils ont un très bon système de financement de la production de leurs auteurs et ravis de faire les coproductions avec un grand pays, comme ils disent.
Avec Haneke, vous avez accompagné son œuvre, disons, française et internationale, parce qu'avant, c'est ses films en Autriche.
Il toujours a coproduit avec son producteur d'origine autrichien, tous. Et à partir du Ruban Blanc, qui était un film allemand, un film historique allemand, avec un coproducteur allemand. Les Autrichiens me disaient, il n'y a pas d'argent en Allemagne. Moi, je savais très bien qu'il y avait de l'argent en Allemagne pour coproduire ces films. Plus c'est une histoire allemande, c'est l'éducation des enfants avant la Grande Guerre. Parce qu'ils se demandaient comment ces peuples si osés de cultiver avaient pu basculer dans le nazisme tout d'un coup. Donc il a cherché dans l'éducation de ceux qui avaient 20 ans en 39, et il a décrit minutieusement les méthodes d'éducation. Parce que pour lui, la source de ce basculement était dans l'éducation des enfants.
Donc le Ruban Blanc a eu la Palme d'Or en 2008.
Oui, mais ça j'étais persuadée que s'il voulait chercher la Palme d'Or ou s'il voulait aller dans la compétition aux Oscars, il fallait qu'il fasse un film en langue allemande. Et puis tous ces films qu'on a envoyés aux Oscars, c'était toujours au nom de l'Autriche. Parce que chaque pays au monde a le droit d'envoyer un film pour la compétition des Oscars. L'Islande comme la France. Oui. Nous, on en fait 300, eux, ils font 6 par an. Donc, on a toujours senti une très grande injustice dans ce mode de présélection. Et c'est évident qu'un film doit avoir la nationalité de son auteur.
Bien sûr.
C'est pas celui qui met le plus d'argent qui doit dire la nationalité d'un film. C'est comme les livres, ils ont la nationalité de leur auteur. Personne ne se pose de question quelle la valeur l'éditeur a donnée pour un livre. Voilà. Donc, il se trouve que l'agent dernier qui m'a dit « tu avais raison ».
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Serge Toubiana avec Margaret Mengoz. À voix nue, réalisation Thomas Duterre, prise de son Laurent César, attaché de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.